Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. De quelle façon l'Irak va-t-il se reconstruire dans les prochaines années ? Tourner la page de l'État islamique sera sans doute difficile pour toutes les communautés. Les plus inquiètes sont probablement les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses ou tribales. Lors d'une récente rencontre organisée par le Sénat français à Paris, des représentants des différentes sensibilités irakiennes ont dialogué et réfléchi à ce que pouvait être la citoyenneté en Irak. Un État séculier qui accorderait une grande attention à la formation de sa jeunesse, c'est ce que beaucoup appellent de leurs vœux. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec ce samedi Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire. Pour repenser l'État irakien de demain, les autorités s'appuient sur différents groupes de réflexion, dont le Conseil pour le dialogue interreligieux, le pays étant une mosaïque de spiritualités diverses, des chrétiens aux chiites, des yézidis aux sunnites, des kakaïs aux shabaks. Le père Amir Jagé est originaire de Karakoche, dans la plaine de Ninive. Membre de ce conseil et spécialiste du chiisme, il estime qu'une vraie citoyenneté en Irak se gagnera par la formation de la jeunesse et l'éducation.
Je pense que la question de citoyenneté aujourd'hui, c'est une question cruciale pour l'avenir d'Irak. Après toute cette guerre de religion qu'on a eue, cette gâchis qu'on a eue durant ces 10 dernières années, aujourd'hui on doit vraiment trouver la solution, et la solution se trouve dans l'application concrète des principes de la citoyenneté et de la démocratie. Et cela, ça peut être réalisé par reformer carrément le système scolaire et académique aujourd'hui en Irak, parce que malheureusement, depuis l'embargo et après les différentes guerres, malheureusement, il a été détruit ce système, et on doit reformer ce système scolaire pour pouvoir vraiment sauver l'avenir d'Irak.
Justement, qu'est-ce qui manque dans le système universitaire en Irak qui existait autrefois mais qui n'existe peut-être plus aujourd'hui ?
Malheureusement, aujourd'hui, la vie académique en Irak, malheureusement, c'est on choisit par exemple un recteur ou un doyen d'université parce qu'elle appartient à tel parti politique ou telle appartenance. Et ça, c'est catastrophique. On doit choisir des gens qui sont vraiment habilités à ce devoir-là, parce que c'est la construction d'Irak. Parce que la construction d'Irak, l'avenir d'Irak, passe par la vie académique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont soif de vivre en paix. Moi, j'entends très très souvent les jeunes qui disent « Nous, on a marre de la guerre, de violence, on veut vivre comme les autres. » Et il faut permettre à ces jeunes-là, qui sont aujourd'hui capables de construire l'avenir de leur pays. Et je pense que par le moyen de l'Europe et la France, elle peut encourager de reformer le système académique en Irak et d'aider vraiment ce système académique à être vraiment le moyen réel de la reconstruction d'Irak, le moyen réel pour un avenir plus bel et un avenir de vie et non pas un avenir de mort.
Qu'est-ce qui manque précisément dans les cursus universitaires qui ne se pratiquent plus et qui manquent donc cruellement aux étudiants irakiens ?
Ce qui manque aujourd'hui vraiment, c'est la science humaine. La science humaine aujourd'hui en Irak, c'est très pauvre et presque marginal. Je me souviens, il y a quelques années, le ministre des Éducations nationales ou le ministre de l'enseignement supérieur disait que nous, on n'a pas besoin de sciences humaines, on a besoin de sciences de médecine, etc. Mais c'est catastrophique, parce que lui, il n'a jamais étudié, et il n'a jamais connu les sciences humaines. Moi, je pense que la science humaine aujourd'hui, c'est la science qui garantit vraiment la reconstruction d'Irak, qui garantit vraiment l'avenir d'Irak.
Et qui permet aux jeunes, aux étudiants, aux Irakiens de toute sensibilité d'être ouverts aux autres.
Exactement, parce que par les sciences humaines, par la psychologie, sociologie, c'est une ouverture d'abord à l'autre, c'est-à-dire d'avoir par les sciences humaines d'appliquer les principes de citoyenneté qui va garantir les droits de tous les autres religieux, que ce soit chrétiennes, yézidis, sabéens, toutes les religions, qui puissent vraiment se trouvent leur place et appliquer vraiment leurs droits et leurs devoirs dans ce pays.
Et puis étudier sciences humaines, ça permet peut-être aussi de se remettre soi-même en question.
Tout à fait. Je donne une expérience qu'on a nous-mêmes. Moi, je suis dominicain à Bagdad. J'étais 3 ans directeur de l'Académie de Bagdad pour les sciences humaines et j'avais une expérience très, très intéressante. Vraiment, on avait à peu près 200 étudiants musulmans, Sabéa, yézidis, chrétiens et c'était une formidable expérience pour les jeunes. Ils disaient toujours, pour nous, l'Académie de sciences humaines, c'est comme un espace et comme une boule d'oxygène pour nous, pour la liberté, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir vraiment être soi-même et pour pouvoir vraiment, ce qui était très important pour moi, c'est de ces jeunes-là, ils étaient capables d'avoir le sens de autocritique, ce qui n'existait pas malheureusement dans le monde arabe, et d'avoir vraiment un recul avec la situation, avec les choses.
Le père dominicain Amir Jagé, membre du Conseil irakien pour le dialogue interreligieux. Également invité par le Sénat français à débattre avec d'autres représentants de communautés irakiennes, Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sacco, patriarche de l'Église catholique chaldéenne. Il estime que l'État devrait être laïque et séparé de la religion et qu'en la matière, les responsables des communautés musulmanes devraient faire leur aggiornamento.
Dans une société, tout est basé sur la religion. Surtout la religion musulmane, la société, la politique fait partie de la religion. Il y a aussi beaucoup de barrières à cause de la religion entre sunnites et chiites, chrétiens et musulmans, etc. La solution pour sortir ce dilemme est la citoyenneté, séparer la religion de l'État. La citoyenneté, c'est un régime qui intègre tous, sans tenir compte de l'appartenance religieuse ou ethnique et même tribale. Donc c'est un projet, il y a une grande prise de conscience chez la population irakienne pour un régime, disons, civil. Pour eux, quand on parle de la laïcité, en arabe, laïque, ça veut dire athée. Ça ne marche pas pour eux. Donc civil, ça veut dire... Moi, je suis chrétien, l'autre est musulman. Chacun de nous peut pratiquer sa religion dans l'église ou dans la mosquée ou comme il veut. Mais comme citoyen, moi, j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, l'État doit prendre distance par rapport à la religion et les lois doivent être appliquées sans distinction. Je crois que c'est ça l'avenir. Et ça va venir parce qu'un État islamique comme Daesh ou comme Al-Qaïda, comme les frères musulmans, est incapable de vivre. C'est impossible. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour les musulmans s'ils ne font pas une véritable réforme, une véritable interprétation des textes, les mettre dans leur contexte historique et géographique et chercher le sens. Et non pas les détails. La religion ne peut pas fonder une société parce qu'aujourd'hui, la diversité, le pluralisme, il y a toute une mosaïque. Donc, comment tenir compte? C'est impossible de faire un État théocratique, chrétien, juif et musulman. Un État est pour tout le monde, la patrie est pour tout le monde.
Que faut-il faire alors pour changer les choses en Irak? Il faut une nouvelle constitution?
Une nouvelle constitution, mais aussi les programmes de l'enseignement religieux et aussi national, l'éducation. On doit parler de l'histoire, aussi des chrétiens. Il n'y a pas même une ligne sur notre histoire, alors que nous étions majorité avant l'arrivée de l'islam. Et nous avons donné beaucoup à l'islam. Eux, ils venaient du désert, étaient des militants. Nous avions à ce temps-là la culture, des écoles, des monastères, des hôpitaux, etc. Puis, pendant le califat abbasside, nous avons beaucoup donné. Toutes les sciences grecques ont été traduites par les chrétiens et en arabe. Donc aujourd'hui, comment peut-on ne pas mentionner ça? Puis on peut faire un instrument religieux comme une sorte de théodicée ou aussi passer un peu sur les valeurs morales. La citoyenneté ou un régime civil ne nie pas les valeurs religieuses, mais on les respecte.
Est-ce qu'un État en Irak qui réformera sa constitution, qui ne serait plus théocratique ou de nature religieuse, est-ce qu'il est viable, donc séculier, est-ce qu'il est viable et est-ce que c'est la survie pour les différentes minorités, qu'elles soient chrétiennes ou autres, yézidites, etc.
C'est le souhait de tout le monde, même des musulmans. Les sunnites et chiites, il y a une guerre entre eux, basée sur la secte, disons. Aussi, il y a toute une impression ou toute une mentalité, tradition chez les musulmans que la seule religion vraie est l'islam et les autres sont des religions falsifiées. Ça, c'est faux aussi. C'est faux. Qui peut juger une religion vraie, véritable ou non? C'est moi, ma conviction. Je crois ou je ne crois pas, je suis irakien, peu importe. Donc, il faut sortir de cette culture, de cette mentalité très limitée et très sectaire.
Et quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui est athée, peut-il être citoyen?
Oui, bien sûr. Peut-être il est plus citoyen qu'un religieux qui vole. Voyez la corruption de ces chefs religieux ou de ces députés religieux musulmans. L'Irak n'a pas d'argent aujourd'hui. Et où est l'argent de l'Irak? Alors que l'Irak, c'est un pays très riche. Donc, un indifférent de la religion peut être un bon citoyen. Et le contraire. Même un religieux peut être un bon citoyen. Donc, le critère n'est pas la religion. C'est la citoyenneté, les droits de l'homme et les lois, respecter les lois.
L'Irak a un passé sur le plan politique récent de centre-gauche, même de gauche. Il y a eu aussi des pouvoirs politiques plus à gauche. Aujourd'hui, on a l'impression que ce passé, qui était un passé très humaniste en faveur des populations, a disparu. Est-ce que c'est votre sentiment?
L'Irak, c'était un pays civil, séculier. Durant 35 ans avec Saddam, c'était un État, la citoyenneté. On ne sentait pas cette différence entre chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, même les partis politiques ont perdu les principes, c'est-à-dire comment un peu propager les principes de la justice, de la citoyenneté, du respect, de la vie, des droits, etc. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'ils ont, c'est la lutte pour le pouvoir et l'argent. C'est un peu changé. Les Irakiens, de nature, sont modérés. Puis on est 35 ans, donc c'est quand même une longue histoire.
Vous êtes pessimiste?
Oui, oui, oui. Non, l'avenir est pour le bien, le mal n'a pas d'avenir. Et toutes ces guerres-là, tout cet intégralisme n'a pas d'avenir. Les musulmans doivent faire un progrès, des réformes. Sinon, ils vont rester séparés de la vie contemporaine. Ils doivent donc se confronter à la modernité.
Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sacco, patriarche de l'Église catholique chaldéenne. Le 12 mai dernier, les élections législatives ont vu la percée des partis anti-système. La liste du leadership populiste Moqtada Sadr, associé, et c'est inédit, au Parti communiste irakien, étant arrivé en tête en nombre de sièges. Pas sûr cependant que cela conduise à l'état séculier qu'appelle de ses voeux Mgr Sacco, les États-Unis et l'Iran étant farouchement opposés à un gouvernement Moqtada Sadr. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Mouchanti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, la grande affaire pour vos journaux cette semaine, c'est l'annulation du match amical entre l'équipe de foot israélienne et celle d'Argentine.
Tout à fait, cette décision a eu l'effet d'une véritable bombe médiatique. Tous les journaux, radio et télévision ont fait leur une sur ce fiasco face à tous ceux qui militent pour un boycott d'Israël. Pour les commentateurs, la volte-face des Argentins serait surtout due aux menaces de mort proférées contre Messi et sa famille par les mouvements pro-palestiniens. Mais les commentateurs sont aussi tombés à bras raccourcis sur Miri Regev, la ministre des Sports et égérie de la droite dure, qui a insisté pour que le match amical prévu samedi se déroule non pas à Haïfa comme prévu, mais à Jérusalem, histoire de bien montrer que la ville sainte est la capitale d'Israël, comme l'a décrété Donald Trump. Miri Regev est accusée d'avoir ainsi tout fait capoter par son intransigeance, et les médias se demandent si la prochaine édition de l'Eurovision, qui doit être organisée l'an prochain en Israël, après la récente victoire d'une chanteuse israélienne dans cette compétition, ne va pas elle aussi être annulée si Miri Regev insiste pour que l'événement ait lieu à Jérusalem.
Et la presse arabe applaudit, elle, la décision argentine d'annuler le match, Alexandre.
Plusieurs journaux arabes reprennent la photo d'une Palestinienne portant une pancarte sur laquelle il est écrit « Gracias, merci » en espagnol. Le titre qui revient le plus souvent est « Messi 1, Israël 0 » ou « Messi est le but qui tue ». Les journaux arabes, qui avaient violemment critiqué le même Lionel Messi pour avoir accepté de jouer en Israël, encensent aujourd'hui l'attaquant argentin. Plusieurs éditorialistes estiment que le camouflet infligé à Israël dépasse de très loin la planète foot à la veille de la grand-messe de la Coupe du Monde. Ils y voient la preuve que les Arabes ne sont pas si impuissants et que les Israéliens ne sont pas imbattables. Pour les commentateurs, la décision argentine de ne pas disputer un match à Jérusalem reflète le rejet mondial de la déclaration unilatérale de la ville sainte comme capitale de l'État hébreu. Une décision qui, l'espèrent des journalistes, empêchera le concours de l'Eurovision de se tenir à Jérusalem en 2019.
Alexandre, vos journaux s'intéressent également à la situation en Jordanie.
Nouveau printemps arabe, c'est la question qui revient le plus souvent dans les journaux. Et les réponses sont très diverses. Pour les journaux proches du Qatar, la contestation sociale et les manifestations du 4e district de Amman sont tout à fait comparables à celles de la place Tahrir au Caire en 2011. Hausse des prix, chômage des jeunes et autoritarisme sont les mêmes ingrédients qui avaient provoqué le premier printemps arabe. Pour les journaux saoudiens et émiriens, il s'agit de problèmes économiques qui ont été exploités politiquement par la confrérie des frères musulmans puissante en Jordanie. Une confrérie soutenue par le Qatar, mais considérée comme terroriste en Arabie, aux Émirats et en Égypte. L'Égypte où le gouvernement s'apprête à lever une partie des subventions en vertu d'un accord avec le FMI et qui pourrait être échaudé par la situation en Jordanie.
Christian, dans vos journaux, les incendies provoqués par des cerfs-volants lancés depuis Gaza.
Effectivement, les images de plus d'un millier d'hectares de champs et de broussailles en feu ont fait les gros titres. Les commentateurs militaires constatent que face à une arme aussi primitive que les cerfs-volants auxquels sont attachés des engins incendiaires, Israël n'a toujours pas trouvé de parade alors que des batteries de défense arrivent à intercepter en vol des roquettes et des obus de mortier. Un débat pour savoir quelle tactique adopter est en cours. Les uns à droite préconisent des éliminations ciblées de ceux qui manipulent ces cerfs-volants. D'autres à gauche, comme le quotidien Haaretz, estiment que la force ne doit pas être la seule option et que mieux vaut alléger le blocus de la bande de Gaza pour améliorer une situation économique et sociale catastrophique.
Christian, une querelle religieux-laïque à propos d'un lieu branché de Jérusalem.
En effet, les ultra-orthodoxes à l'approche des élections municipales de fin octobre sont partis en guerre contre, je cite, la débauche qui sévirait dans le marché Machane Yehuda au centre de la ville. Ce quartier populaire se boboifie à grande vitesse avec l'ouverture de nombreux cafés qui remplacent les étals des marchands de légumes. Tous les soirs, le marché est envahi par une foule de jeunes gens, tandis que des concerts de rue y sont organisés. Pour les ultra-orthodoxes qui pratiquent un judaïsme très strict, le marché doit rester fermé le soir pour éviter ce spectacle jugé immoral. Pas question en revanche pour les laïcs de renoncer à ce qu'ils considèrent comme un des rares lieux de distraction dans une ville connue pour son austérité.
Alexandre, la presse arabe se fait l'écho de la compétition sans merci des feuilletons télévisés durant le Ramadan.
Des feuilletons qui n'ont plus rien de religieux, comme cela a été le cas il y a des années. Des feuilletons où dominent l'action, la comédie ou les sitcoms et qui se disputent l'énorme gâteau publicitaire du Ramadan devenu mois de consommation par excellence. Un feuilleton qui sort de l'ordinaire cette année retient l'attention des critiques. Layali au génie, les soirées de génie. Un feuilleton romantique inspiré d'une telenovela espagnole et qui se passe dans les années 40 dans la ville de Port Saïd à l'entrée du canal de Suez. Nostalgie d'un âge d'or et de cosmopolitisme ont fait le succès du feuilleton, estiment plusieurs critiques.
Et pour conclure, Christian, votre image de la semaine, un dessin dans Haaretz à propos de l'annulation du match Israël-Argentine.
Effectivement, on voit Donald Trump dire au téléphone à Benjamin Netanyahou: si j'avais su pour l'Argentine, j'aurais transféré l'ambassade américaine à Haïfa.
Merci Christian, merci Alexandre. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez podcaster sur notre application Pure Radio ou réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Demain dimanche, nous nous intéresserons au Sahara occidental, cette ex-colonie espagnole qui revendique son indépendance face au Maroc. Un puissant voisin qui accuse maintenant l'Iran d'armer la rébellion du Front Polisario. Un prétexte, nous dira notre invité Khadija Mohsen Finan, spécialiste du Maghreb. À demain, même heure, tout de suite le journal.